Alors, bonjour à tous. Je suis bien heureux d'être avec vous ce matin, d'être en avant de vous. Moi, je suis d'habitude assis en arrière, là. Mais même si ça m'intimide un peu, là, ça me fait bien plaisir d'être avec vous. J'aimerais commencer par... Non? OK. Alors, je vais l'approcher un petit peu. Là, est-ce que ça va bien? Bon. Alors, merci, Alphonse, d'avoir dévoilé Saint-Joseph, parce que c'est de lui que je vais vous parler ce matin. J'aimerais commencer par un extrait du livre de la Sagesse, qui... Ceux qui me connaissent bien me reconnaîtront dans ces paroles-là. Afin que tous proclament, Seigneur, la puissance que tu as déployée pour notre rachat. Ta sagesse a ouvert la bouche des muets et a délié la langue des tout-petits. Alléluia. Puis comme j'ai déjà entendu lors d'une retraite, je demande à l'Esprit-Saint de parler à votre cœur pendant que je parle à vos oreilles. Autrement, ça ne donnera rien. Alors, notre thème de l'année 2012-2013 est « Qui est Jésus? » Et en particulier pour ce mois-ci, « Jésus est la vie ». C'est Jésus lui-même qui nous l'a dit quand il a répondu à Thomas, qui lui demandait, en Jean 14, 6, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment connaîtrions-nous le chemin? » Jésus a répondu, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Et pendant toute sa vie, Jésus a été en constante communion avec son Père. Surtout avec son Père du ciel, mais aussi avec son Père de la terre. Au mois de mai, on a l'habitude de parler de Marie. On va en parler, surtout Claire va en parler. Mais moi, je vais surtout vous parler de son époux, son cher époux. Lors d'une retraite que Jean Vanier prêchait en 1985 à Sherbrooke, il a dit « Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Saint-Joseph. » À ce moment-là, il n'y avait pas grand monde qui parlait de Saint-Joseph à part le frère André. Cet enseignement-là de Jean Vanier a été filmé et j'ai eu le bonheur de le visionner. Alors, ça m'a aidé pas mal dans la préparation de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup de Saint-Joseph, hein? Et puis même on ne cite aucun mot de lui. Saint Matthieu commence son évangile en faisant la généalogie de Jésus. Il nomme les 14 générations d'Abraham à David, les 14 générations de David à la déportation à Babylone, puis les 14 de Babylone à Jésus. Il termine en disant « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Alors, il ne dit pas que Joseph qui a engendré Jésus. Il dit Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Ensuite, au verset 18 à 25, il dit, et je cite, « Voici comment Jésus fut engendré. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme droit et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Il avait formé ce dessein quand l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse et, sans qu'il l'eût connue, elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Fin de la citation. Fiancé ou épouse, là, j'y reviendrai tantôt. Mais quant à l'expression « sans qu'il l'eût connue », ben, on sait tous que ça veut dire « sans qu'il ait eu de relation sexuelle avec elle ». Jean Vanier nous raconte que Joseph était de la famille de David et que cette famille vient de Bethléem. C'est pour ça qu'il doit s'y rendre lorsque l'empereur veut faire un recensement et qu'il exige que tous les citoyens de son peuple se fassent recenser. Mais Jean Vanier nous dit, mais si sa famille venait de Bethléem, pourquoi qu'il n'y a pas eu de place quand il est allé? Parce que dans la tradition juive, les familles, c'est très uni, puis quand un membre de la famille étranger arrive, il a juste à frapper à la porte, puis on l'accueille. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de place, lui? Puis, il nous rappelle aussi, Jean Vanier, que David, il était le petit méprisé de sa famille, lui aussi. Quand Samuel a été appelé par le Seigneur à aller voir chez Jessé pour trouver un roi pour son peuple, Jessé présente ses premiers fils à Samuel, des beaux grands gars, bien forts, là. Et puis, Samuel les refuse un après l'autre. Il y en avait sept. Il les a tous refusés, les sept. Puis, il a dit à Jessé, « T'en as pas un autre? » Jessé, « Ah, il dit oui. » Il dit, « Le petit David, lui, il ne vaut pas grand-chose. Il est juste bon à garder les moutons. » Ah, bien, il dit, « Fais-les venir. » Alors, il fait venir. Puis, finalement, c'est lui. C'est à lui que Samuel, que le Seigneur a dit à Samuel de choisir pour devenir le roi. Et c'est David qui est devenu le roi. La Bible dit, « Dieu l'a trouvé selon son cœur. » On va revoir ça au sujet de Joseph aussi. Alors, aurait-il été lui aussi, Joseph, rejeté par sa famille, compté pour rien? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'aurait pas eu de place quand il est revenu à Bethléem? On se rappelle d'ailleurs qu'un autre Joseph avant lui avait même été vendu par ses frères. Et pour ma part, ma relation avec Joseph a commencé il y a une vingtaine d'années. J'avais avoué à mon amie animatrice PRH, sœur Thérèse Tachereau, une sœur de la même communauté que Claudette, notre amie Claudette, qui m'a cédé sa place aujourd'hui parce qu'elle ne pouvait pas venir. Alors, j'avais dit à Thérèse que j'avais de la difficulté à prier le chapelet, que je trouvais ça aride, puis sans intérêt, que je trouvais ça répétitif. Thérèse m'a dit qu'elle aussi avait déjà eu le même sentiment, et que ça allait mieux depuis qu'elle incluait Joseph dans ses Ave. J'ai donc essayé ça. Puis, à la chapelle du Centre Terre Nouvelle, où Thérèse habitait, il y avait devant le tabernacle trois belles statuettes, très sobres, blanches, de Marie, Joseph et Jésus. Puis j'aimais bien ça prier là. Alors, quand Claire et moi, on a trouvé notre maison à l'île d'Orléans, j'ai écrit à Thérèse pour lui dire qu'on avait trouvé notre terre nouvelle, nous aussi. Alors, elle m'a envoyé, je ne sais pas si elle les a fait faire exprès, mais en tout cas, elle m'a envoyé une copie, la copie de ces trois statuettes qu'on a mis dans notre coin de prière, puis devant lesquelles on prie. Elle nous a envoyé ça pour qu'on reste en communion avec elle. Un peu plus tard, Claire et moi, on a suivi une session avec Ressourcement Alliance, animée par Gilles Dupré, un prêtre qui habite à Terre-Nouvelle. Puis, à notre surprise, cette session-là avait pour thème le rosaire. Je me rappelle quand j'ai entendu ça, là, je me dis, ouais, ça va être plate cette fin de semaine-là. Mais, on a été beaucoup rejoints. Et pendant quelques années qui ont suivi, Claire et moi, on a prié ensemble de cette façon, puis en s'aidant des petits feuillets que Gilles Dupré nous avait remis avec les invocations, les mystères, avec un petit peu les clausules sur chacun des mystères, incluant les mystères lumineux qui avaient été proposés par Jean-Paul II. Alors, depuis ce temps-là, dans ma prière de chaque jour, après le Notre Père, il y a toujours un Ave qui commence par ces mots. Et vous, Marie et Joseph, vous qui êtes pour moi des modèles de foi et d'espérance, des modèles d'écoute attentive des signes du Seigneur, des modèles de docilité et de fidélité dans l'accomplissement de sa volonté, des modèles d'humilité et de douceur, de pureté et de chasteté dans l'amour. Je vous salue, comblé de grâce. Modèle de foi et d'espérance. Oui, Joseph est pour moi un modèle de foi et d'espérance. Comme Marie, c'était un bon juif, de bonne descendance, celle de David. Il avait donc été éduqué selon les Écritures, et il attendait le Messie en toute confiance, dans la paix. Il avait appris jeune à travailler le bois, ce matériau qui se laisse non seulement clouer et visser, mais aussi former, ciseler, tailler, sculpter, polir, et qui donne à l'homme l'occasion de cultiver sa patience et de développer ses habiletés. Moi, je vous avoue que la première chose que j'ai faite quand j'ai pris ma retraite, c'est d'aller suivre des cours d'ébénisterie pour essayer de faire comme Joseph un peu. Dans un livre intitulé « Heureux ce couple qui a cru », Jean-Guy Paradis cite Saint-Bernard, qui fait l'éloge de Saint-Joseph en ces termes. « Le Seigneur l'a trouvé selon son cœur. » Hein, on a entendu ça tantôt. C'est un autre David. C'est à cause de sa foi inébranlable que Joseph a été choisi par Dieu pour être au cœur même du mystère de notre salut. On pourrait dire de lui comme d'Abraham, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Fin de la citation. Quand Joseph a appris que Marie était enceinte, il a vraiment eu un choc. Et comme le pensent plusieurs auteurs, dont Olivier Legendre et Jean Vanier, c'est probablement Marie qui lui a dit. Dans son livre « Le charpentier », Olivier Legendre a tout un chapitre sur cette annonce de Marie à Joseph et sur le sentiment de Joseph. C'est de la pure poésie. Puis c'est plausible en même temps. Il fait dire à Marie « Réjouis-toi, Joseph. L'ange du Seigneur est venu me visiter. » Nous avons été choisis pour mettre au monde le Messie que notre peuple attend. Mais il n'a été engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni de notre vouloir, mais de Dieu. Alors, Marie n'a pas dit « j'ai été choisi », elle a dit « nous avons été choisis ». Jean Vanier nous dit « Joseph aime tellement Marie, il a tellement confiance en elle qu'il ne peut pas douter de ce qu'elle lui annonce. Mais en même temps, sa vie est chamboulée. Que peut-il faire, lui, pauvre charpentier, dans une relation où Dieu s'empare de sa bien-aimée? Se peut-il qu'il soit associé à un si grand projet? » Marie, elle a accepté sur le champ. Mais Joseph, à ce moment-là, il ne peut rien dire. Il est muet. Toutes sortes de pensées se bousculent dans sa tête. Dans sa nuit blanche, il repense aux prescriptions du Deutéronome qui disait « Si la jeune femme n'a pas été trouvée vierge, on l'amènera à la porte de la maison de son père. Les hommes de la ville la lapideront et elle mourra. » Quel drame pour Joseph. Il ne peut pas faire ça à Marie. Lui, le bon juif qui attend le Messie, dans quelle histoire se trouve-t-il engagé? Il croit donc que la seule issue est de se séparer discrètement. Mais quelle peine! Quelle peine! Seigneur, dis-moi que je rêve. Et le Seigneur vient à son secours. L'homme de foi et d'espérance est exaucé. Il l'entend lui dire, « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » L'enfant qu'elle porte a été conçu par mon esprit. Elle aura un fils et tu lui donneras son nom. Dans la tradition juive, c'était le père qui donnait le nom. Alors, c'était important que Joseph entende « et tu lui donneras son nom ». Marie et Joseph sont donc pour moi des modèles de foi et d'espérance. Modèle d'écoute attentive des signes du Seigneur. On n'a pas besoin de chercher bien longtemps pour trouver des preuves que Marie et Joseph étaient des personnes de grande écoute. Avant même que l'ange Gabriel vienne lui faire la grande annonce, Marie passait beaucoup de temps en prière et en écoute de la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle a pu être prête à dire oui si spontanément quand l'ange Gabriel est venu. Puis on connaît tous le chant qui dit « Ô Vierge de l'écoute ». Quant à Joseph, homme de silence, il a voulu prendre le temps d'écouter Dieu avant de décider s'il continuait son engagement avec Marie. Puis quand, dans leur grotte, ils ont reçu la visite des bergers et des mages, ils n'ont pas posé 56 questions. Ils ont simplement accueilli les messages et les ont gardés dans leur cœur. Et quand est venue la menace d'Hérode, Joseph a encore été attentif à l'écoute du message qui lui demandait de fuir en Égypte. Ils sont vraiment des modèles d'écoute attentive des signes du Seigneur. Modèle de docilité et de fidélité dans l'accomplissement de sa volonté. Que de docilité ça demande pour laisser bouleverser sa vie comme l'ont fait Marie et Joseph. Ils avaient sûrement envisagé de faire leur vie paisiblement comme Anne et Joachim ou comme les parents de Joseph. Mais l'intervention de l'Esprit-Saint vient tout chambarder. Conception prématurée, voyage chez Élisabeth, tourment et nuit blanche de Joseph, grande marche jusqu'à Bethléem, alors que Marie est enceinte, accouchement dans la précarité, visite incroyable de bergers et de mages, ordre de fuir en Égypte, c'est pas juste le village voisin, ça, hein? Ils ne discutent pas, ils obéissent. Sans parler des autres révélations de Siméon et Anne qui annoncent des douleurs et des tourments. Docilité et fidélité encore. Lors du retour d'Égypte après la mort d'Hérode, et encore lors du retour à Nazareth après la fuite de Jésus à Jérusalem. Et que dire de la fidélité et de la docilité de Marie tout au long de la vie publique de son fils jusqu'à la croix? On va entendre un chant de Moustaki sur Joseph. Si vous voulez vous lever en même temps, ça dégourdit un petit peu, là. Thank you. Jean-Paul II, Jean-Paul II nous a laissé une exhortation apostolique sur la personne et la mission de Joseph, de laquelle j'ai retenu les trois points suivants. D'abord, un sujet qui n'est pas mentionné dans les évangiles, le mariage de Joseph et Marie. Selon la coutume juive, le mariage avait lieu en deux étapes. Le mariage était d'abord célébré, ça pouvait durer une semaine, le mariage légal, et ensuite, après un certain temps, entre-temps, l'homme allait construire la maison, ou allait préparer la maison, peut-être pas nécessairement la construire, mais quoique c'était assez simple dans ce temps-là, les maisons. Alors, après un certain temps, le mari, quand la maison était prête, amenait sa femme dans sa maison. Donc, Joseph prit Marie chez lui, et avant que Marie reçoive la visite de l'ange, Joseph était déjà son époux. C'est pourquoi, quand l'ange apparaît à Joseph, il lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse Marie. » Il est donc évident que Dieu avait choisi un couple, Marie et Joseph, pas seulement Marie. Deuxièmement, Jean-Paul II nous dit, il nous fait comprendre que on se trompe si on pense que Joseph n'a pas participé totalement ou autant que Marie à la rédemption du monde. On pourrait penser ça vu qu'il est mort avant même que Jésus entreprenne sa vie publique et soit crucifié et ressuscité. Mais Jean-Paul II nous dit « L'incarnation et la rédemption constituent une indissociable entité. » C'est à cause de cette unité que lors du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII a exigé d'inclure dans le texte du canon de la messe le nom de Joseph, tout de suite après celui de Marie, avant les apôtres, les papes et les martyrs. Troisièmement, Jean-Paul II conclut son exhortation en nous disant « Cet homme juste qui porte en lui tout l'héritage de l'ancienne alliance a aussi été introduit dans la nouvelle et éternelle alliance par Jésus-Christ. Cet homme à qui Dieu a choisi de confier son trésor le plus précieux et qui a su être le valeureux chef et gardien de la Sainte Famille, il est tout naturel de lui faire confiance, tout comme à Marie, pour défendre et aider l'Église d'aujourd'hui, qui doit évangéliser le monde, surtout là où la vie chrétienne a déjà été florissante et est maintenant en péril. » Alors, on sait que Jean-Paul II a nommé Joseph le patron de l'Église universelle. Alors, oui, Marie et Joseph, vous êtes vraiment des modèles de docilité et de fidélité pour accomplir la volonté de Dieu. Modèle d'humilité et de douceur. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur. » C'était de son propre aveu ses plus grandes qualités. De qui avait-il bien pu apprendre ça, hein? De ses parents. Dans tous les passages des évangiles où on parle de Marie ou de Joseph, on est frappé par leur humilité et leur douceur. Rappelez-vous la réponse de Marie à l'ange. « Je suis la servante du Seigneur. Quand Marie en a parlé à Joseph, alors, comme exemple d'humilité, de douceur, on se rappelle que Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Puis quand Marie en a parlé à Joseph, « Nous avons été choisis ». Puis la réaction de Joseph, pas un mot. Il se croit indigne d'un tel projet. Vraiment, ce sont des modèles d'humilité et de douceur. Modèle de pureté et de chasteté dans l'amour. Marie-Joseph s'aimait d'un très grand amour et avait décidé de se marier. On peut croire que ce n'était pas un mariage arrangé par les parents, là. Ils s'aimaient, ils voulaient sûrement vivre leur vie d'amoureux et avoir des enfants. Quand j'ai demandé à mon conseiller spirituel un conseil au sujet de l'enseignement que je devais donner, le petit frère John m'a suggéré de lire, entre autres, les deux panégyriques de Saint-Joseph, écrits par Bossuet. Toute une commande. Panégyrique, moi je n'avais jamais entendu ça, là. Je remplacerais ça par éloge. Puis Bossuet, ben, je savais que c'était un grand écrivain, mais je ne savais pas que c'était un évêque. En lisant cet éloge, j'ai compris que Joseph a été choisi par Dieu pour être le dépositaire, c'est-à-dire le gardien des trésors de Dieu. Bossuet dit qu'il y a chez Joseph trois défauts, parce qu'il y a trois trésors à déposer. Je cite. Le premier de tous les dépôts, c'est la sainte virginité de Marie, qu'il doit conserver entière sous le voile sacré de son mariage. Le second et le plus auguste, c'est la personne de Jésus-Christ que le Père céleste dépose en ses mains, afin qu'il serve de Père à ce saint enfant qui ne peut en avoir sur la terre. Le troisième, c'est le secret du Père éternel, l'incarnation de son Fils. Car c'était un conseil de Dieu de ne pas montrer Jésus-Christ au monde jusqu'à ce que l'heure en fût arrivée. Et Saint Joseph a été choisi non seulement pour le conserver, mais encore pour le cacher. Donc, les trois points de Bossuet, Joseph est le dépositaire, le gardien de la virginité de Marie, il est le père et l'éducateur de Jésus, puis il doit demeurer discret quant à l'identité de son fils. Pour accueillir ces trois dépôts, Joseph présente à Dieu ses trois vertus principales. Sa pureté, qui paraît par sa continence dans son mariage, sa fidélité dans les soins infatigables qu'il donne à Jésus, son humilité Bien loin de se vanter de ses dons, il se cache autant qu'il peut aux yeux des mortels. Si vous voulez en savoir plus sur ce bel éloge de Bossuet, allez sur Internet, tapez Bossuet panégyrique, puis ça vous conduit à ces deux textes-là. C'est très agréable à lire, c'est écrit dans un ancien français, évidemment, là, par sa date, je pense, du 14e ou du 15e siècle. Là. Et puis, 17e, bon. En tout cas, c'est écrit dans un ancien français, mais c'est très plaisant à lire. Surtout le premier des deux panégyriques. Oui, Marie et Joseph sont vraiment pour moi des modèles de pureté et de chasteté dans l'amour. Je me rappelle encore avec un pincement au cœur, dans les premières années de notre mariage, quand le Seigneur a commencé à prendre un peu trop de place à mon goût dans le cœur de Claire. Je trouvais qu'il me la volait. Je l'ai vu comme un rival pendant plusieurs années. À notre 20e anniversaire de mariage, j'ai proposé d'aller en voyage. La réponse de Claire fut d'aller faire une semaine de solitude, chacun dans notre petite cabane, à Prix d'en haut, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Là, seul dans ma cabane, avec un lit, une chaise, puis la Bible, j'ai lu le livre de Job. Seigneur, si tu la veux pour toi, je te la laisse. Il me l'a redonnée, temporairement. 2 ans plus tard, on décidait de se séparer pour 2 ans. En se disant qu'on verrait au bout de 2 ans si on choisirait de revenir ensemble. Dans la 2e année, on a recommencé à se fréquenter pour aller prier ensemble. On allait le dimanche soir au patro à Kamadou pour ce qui s'appelait les plus beaux dimanches. Puis là, devant le Saint-Sacrement, j'ai accepté de laisser Jésus faire vie commune avec nous. Nous sommes donc revenus ensemble, Claire et moi. Puis, avec l'aide de la prière assidue et de personnes aimantes et aidantes, on a poursuivi notre cheminement.
Aujourd'hui, à travers les événements récents, on sait que récemment, Georges Boussaki est décédé, jeudi, et on avait choisi, Jacques et moi, justement, le chant de Joseph pour insérer à l'intérieur de la parole. Et un autre chant est venu dans mon cœur ce matin, à travers la fin du chant du Métèque, qui dit... Yeah. Je me suis sentie invitée là, en acceptant de partager cette parole-là avec Jacqueline. Je me suis sentie appelée.
Approche-toi un
petit micro. Ok, plus fort. Okay. À continuer de cet enseignement sur Joseph et sur Marie. De le continuer, vraiment de le prolonger dans l'esprit de prière dans lequel il est commencé. Et moi, dans ma vie, la présence de Marie, elle part du sein de ma mère, là, c'est pas d'aujourd'hui, alors j'ai une grande influence, contrairement à Jacqueline, lui, dans sa propre vie, à prier à travers le chapelet, à travers la méditation des mystères du rosaire. Alors, ce que je prends, tout simplement, quelques mystères joyeux, puisqu'on est vraiment dans les mystères de la vie de Marie-Joseph avec Jésus. Et en continuant à demander à l'Esprit-Saint qu'il parle à vos cœurs, en entendant les paroles que je vais mentionner en méditation. Alors, avec le mystère de l'Annonciation, ce mystère qui nous transmet la joie de l'annonce, de la naissance humaine de l'enfant Dieu. L'annonce de Jésus qui prendra chair en Marie. L'annonce de Jésus qui veut prendre chair en moi, en nous aujourd'hui. Réjouissez-vous, Marie et Joseph, comblés de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre tous les humains. Et Jésus, qui a été conçu dans ton sein, Marie, par l'opération de l'Esprit Saint, et Jésus, dont tu as appris la conception, Joseph, par l'ange du Seigneur, qui t'est apparu en songe et qui te dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour accomplir cet oracle prophétique du Seigneur, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, nom qui se traduit « Dieu avec nous ». Oui, Marie et Joseph, votre enfant est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes, qui prenons le temps d'accueillir ce mystère de l'Annonciation qui vous a été fait et qui nous est encore fait aujourd'hui dans nos vies personnelles. Prenons le temps d'accueillir aussi toutes les annonciations que le Seigneur a pu nous faire à nous aussi dans nos vies. Et demandons-lui que ces annonciations-là qu'il nous a faites portent et continuent de porter les fruits que le Seigneur désire que nous portions. Avec toi, Marie, à la conclusion de ce mystère de l'Annonciation pour ta part, tu as répondu à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Au deuxième mystère, la visitation. Ce mystère transmet la joie de la rencontre et du partage de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Partage entre Marie et Élisabeth de ce que Dieu fait en elle. Partage entre nous aujourd'hui de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui fait tressaillir de joie Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, à ta salutation, Marie. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église et notre Mère, priez pour nous, pécheurs, qui contemplons ce mystère de la visitation pour l'accueillir, pour accueillir toute la joie qui a exulté entre toi et Élisabeth, entre Jésus et Jean-Baptiste. et prenons le temps d'accueillir aussi toute la joie que la méditation des mystères joyeux suscite en nos cœurs. Parfois, nous ne la sentons pas toujours parce que nous avons des entraves, des embûches. Mais en prenant le temps de descendre au plus profond de nous et à ton exemple, Marie, et à l'exemple de Joseph, couple de silence que vous êtes, que vous avez été. Vous êtes un exemple pour nous de savoir comment faire pour aller chercher cette joie-là que Dieu a déposée au plus profond de notre cœur par la grâce de notre baptême. Priez pour nous, priez pour nous, Marie, pour que se réalise en nous la joie du Seigneur. Ici, dans ce mystère de la Visitation, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour sa présence dans ma vie à travers vraiment la Sainte Vierge, la Vierge Marie. J'ai été vraiment graciée de la présence de Marie dès le sein de ma mère. C'était une grande fervente de la Sainte Vierge, mais maman, quand elle m'a portée, elle vivait des choses, des émotions très négatives à l'égard de mon père. Elle vivait en même temps une grande relation à la Sainte Vierge, parce que c'était très important pour elle. Mais un enfant, un bébé dans le sein de sa mère, reçoit absolument tout. Et alors, je prends le temps vraiment aujourd'hui de remercier le Seigneur à travers la présence de protection, la présence mariale dans le sein de maman. Qui m'a permis et qui me permet encore tout au long de mes jours de choisir la vie. Nous sommes dans le thème aujourd'hui de Jésus, la vie. Marie, comme intercesseur dans nos vies, est très puissante sur le cœur de Jésus avec Saint Joseph pour nous faire choisir la vie plutôt que les ténèbres, la mort. Et c'est souvent à travers nos rencontres de foi et partage, dans nos rencontres de partage de la parole, qu'est remonté en moi toutes sortes d'états, de mouvances, d'émotions, tout ce qui se loge en nous à travers notre expérience de vie. Et je bénis le Seigneur à travers la communauté foi et partage qui nous a facilité et qui continue de nous faciliter le partage de la parole de Dieu et d'être capable de nommer ce qui se passe en nous et de le laisser vivre dans un climat de prière, d'abandon, de grande confiance au Seigneur. Et moi, je peux dire qu'à travers ce chemin-là de foi et partage, j'ai fait beaucoup de chemins de croissance dans ma vie, de libération qui nous conduit, qui me conduit vers la guérison. Avec toi, Marie, avec ce mystère de la Visitation, je peux dire: mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur. Au troisième mystère joyeux, la nativité. Ce mystère transmet la joie de la naissance de l'enfant Dieu. Jésus né de Marie il y a plus de 2000 ans. Jésus qui naît et grandit en moi, en nous, aujourd'hui. Réjouissez-vous, Marie et Joseph, comblés de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre tous les humains. Et Jésus, qui naît de toi, Marie, Marie, tout aimée de Dieu, au cœur pur et tendre, entourée, accompagnée du merveilleux Joseph, au cœur bienveillant, humble, fidèle, pétri d'amour de la vie cachée. Jésus, votre enfant, Marie et Joseph, Jésus est béni. Sainte Marie et Saint Joseph, parents de Jésus, priez pour nous, vos enfants, pauvres pécheurs que nous sommes, qui méditons ce mystère de l'incarnation, pour accueillir Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui nous est envoyé pour être notre Seigneur, notre Sauveur. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre passage dans la vie éternelle. Priez pour notre humanité, pour qu'elle soit capable de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Prenons le temps à ce moment-ci d'accueillir Jésus dans l'adoration de nos cœurs, Jésus qui nous habite dans chacun de nos cœurs. De la table pour l'adoration pourront venir faire ce service. Nous pourrons garder dans notre cœur ce chant d'adoration que nous reprendrons devant Jésus Eucharistie.